Cet après-midi, oh là là, c'est un peu fort. Nous avons vu avant-hier comment nous pouvions nous débrouiller devant les mystères de notre religion. J'ai fait un topo semblable aux grands jeunes qui m'écoutaient ce matin, les jeunes de 17-18 ans, et je crois que ça les a bien intéressés aussi, même si mon topo était différent et plus court. J'ai mis devant vos yeux un crucifix que j'aime bien. C'est un crucifix qui est vénéré par les moines de Lérins. Au sud de Cannes, vous avez les îles de Lérins. L'une d'entre elles, l'île Saint-Honorat, comporte un monastère cistercien. Et les moines ont eu la bonne idée de mettre dans leur église abbatiale ce crucifix. On n'en connaît pas bien la date. Il est inspiré des icônes. Jésus, alors qu'il n'est pas encore mort, sourit. Donc ce n'est pas un crucifix réaliste. Torturé qu'il était, il devait avoir un visage grimaçant. Mais il exprime ce que Jean-Paul II nous a rappelé dans la lettre qu'il a écrite pour le troisième millénaire, datée du 6 janvier 2001, ce paradoxe de Jésus qui, sur terre, a été à la fois l'être le plus heureux et le plus douloureux qui ait jamais vécu. Je vous ai parlé dimanche des paradoxes, en voilà un. Si un jour vous allez à Nazareth, mais il me semble qu'on en a parlé un petit peu, non, la fois dernière? Pas du tout? Non. Parce que, bon, j'en ai parlé ce matin aux jeunes, mais pas bon. Donc, si vous allez un jour à Nazareth, vous pourrez dire, ici a vécu l'être le plus heureux qui ait jamais vécu. Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu. Donc ça lui donnait une joie extraordinaire. Il se sentait envahi par toute la tendresse du Père, l'Esprit Saint. Nous, quand nous souffrons, nous croyons que nous sommes aimés de Dieu, ce que nous allons faire, ce que nous allons voir cet après-midi, mais nous ne le sentons pas. Tandis que Jésus n'avait pas besoin de croire à la tendresse de Dieu, il était Dieu. Bon, la Commission internationale de théologie a rappelé il y a quelques années qu'il ne fallait pas laisser dire que Jésus ne savait pas qu'il était le Fils de Dieu. Non. Donc, il était heureux, même sur la croix, rappelle Jean-Paul II, en citant Catherine de Sienne et Thérèse de Lisieux. Sur la croix, dit Catherine de Sienne, Jésus jubilait. Il savait qu'il était en train de sauver l'humanité. Il avait dit quelques heures plus tôt, « Ceci est le calice de mon sang répandu pour vous et la multitude ». Quand on sait qu'on est en train de sauver l'humanité, ça vous donne une joie extraordinaire, compatible avec une douleur infinie. Ce n'est pas pour rien que Marguerite Marie a reçu mission ici à Paray-le-Monial de représenter le cœur du Christ couronné d'épines et surmonté d'une croix. Jésus a souffert dès le début de son existence, écœuré qu'il était par le péché du monde. Donc, si vous allez en Terre Sainte, vous vous dites, ici a vécu l'être le plus heureux et le plus douloureux, pas malheureux. J'aime beaucoup ce que Jésus dit au petit Van, ce merveilleux Vietnamien, ma vie a été douloureuse, mais pas malheureuse. Bon, si je te demande d'être heureux, c'est que je l'ai été moi-même. Donc, c'est une façon de rappeler par un paradoxe ce que nous avons vu avant-hier. La foi chrétienne est remplie de mystères, c'est-à-dire de vérités apparemment contradictoires, mais complémentaires. Alors, nous allons étudier cet après-midi l'un des grands mystères chrétiens, énoncé dès le début du credo. Credo in unum Deum, patrem omnipotentem. Voilà. Il est Père tout-puissant. C'est-à-dire qu'il est le roi du monde. Les anciennes icônes représentaient par exemple le Christ assis sur un trône, bénissant le monde de la main droite et tenant dans sa main gauche le globe du monde, l'univers. C'est-à-dire que malgré les apparences, c'est lui qui mène le monde, malgré notre liberté. C'est ça le grand mystère. Et c'est vrai que vous pouvez acheter dans les librairies catholiques maintenant des livres qui nient ce mystère. C'est un des aspects de la crise de l'Occident. Aujourd'hui, des théologiens, des chrétiens disent qu'après Auschwitz, on ne peut plus dire cela. On l'a dit jusqu'en 1960, mais aujourd'hui, quand on réfléchit, on ne peut plus dire des choses comme cela. Alors que nous allons voir que tous les saints, sans exception, l'ont dit. Dans l'un de mes livres publié, édité par les presses de la Renaissance, mais je ne crois pas qu'il soit en vente ici, sous la tente, Les apparents paradoxes de Dieu, le cardinal Schönborn, qui en a fait la préface, commence mon livre en disant ce que j'avais dit un jour en mangeant à côté de lui. Le père d'Escoumont se dit souvent prêt à payer immédiatement 20 000 euros, à Versailles je dis 40 000, à celui qui trouverait un saint contestant le mystère de la Providence. Il n'a jamais dû payer la somme et il est sûr qu'il ne la paiera jamais, car effectivement on ne trouve pas dans l'histoire de l'Église un saint qui se soit permis de nier une vérité fondamentale de l'Ancien et du Nouveau Testament. Seulement, le terrible, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui disent « C'était bon du temps de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou du curé d'Ars, mais c'est complètement dépassé. » Nous allons le voir. Et j'espère vous réconcilier au besoin avec ce mystère déroutant, paradoxal, incompréhensible, scandaleux, parce que si vous y croyez, vos épreuves vont apparaître tout à fait sous un autre jour. Si Dieu permet cette épreuve, il a ses raisons. C'est ce qui fait la sérénité des saints. Vous ne pouvez pas avoir la sérénité d'une Thérèse ou d'une Bernadette si vous ne croyez pas à Patrem Omnipotentem. Pour le dire tout de suite, saint Augustin fait remarquer qu'on aurait sans doute dû traduire le Pantocrator grec par Omnitenentem, Dieu qui tient tout dans ses mains. Parce que tout puissant, ça donne l'impression d'un pharaon tout puissant qui domine et qui rend esclave ses enfants. Ce qui évidemment n'a jamais été la pensée des pères de l'Église. Voilà.